Le journal, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Karim Benzema, entre ombre et lumière, brillant en équipe de France et avec le Real Madrid, l'attaquant français va faire un retour en arrière au parfum judiciaire. Il est jugé à partir d'aujourd'hui et en compagnie de quatre autres prévenus devant le tribunal correctionnel de Versailles. C'est l'affaire dite du chantage à la sextape exercée à l'encontre de son ancien coéquipier en bleu Mathieu Valbuena. Que lui reprochent les juges exactement, Gladys Laffitte?
Eh bien, Karim Benzema apparaît dans le dossier 4 mois après la plainte de Mathieu Valbuena. On est en octobre 2015, l'équipe de France est réunie à Clairefontaine et les deux hommes ont une discussion. Karim Benzema explique à son coéquipier pouvoir lui présenter quelqu'un de confiance pour l'aider à gérer, je cite, la possible publication de la sextape. Attention, Matt, c'est des gros voyous, prévient Karim Benzema, qui lui assure qu'il n'y aura pas de copie de la vidéo. Un simple conseil d'amis, se défend-il, une pression délictuelle selon Mathieu Valbuena. Devant le tribunal, ce sera parole contre parole entre les deux ex-coéquipiers, mais des écoutes téléphoniques viennent mettre à mal la version de Karim Benzema. Il rapporte cette fameuse conversation à son ami d'enfance, Karim Zenati, l'un des intermédiaires avec les maîtres chanteurs, lui aussi prévenu. « Il va rien lâcher, il nous prend pas au sérieux », lui dit-il. Un « nous » qui démontre que Benzema s'inclut dans l'affaire de chantage, selon l'accusation.
Gladys Laffitte, le procès doit durer 3 jours. Karim Benzema risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Ne rien laisser passer, l'Éducation nationale a relevé près d'une centaine d'incidents à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty vendredi et samedi dernier. Aucun ne doit être considéré comme anodin, affirmait hier Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation pensait notamment à ce qui s'est passé à Valence dans la Drôme. Le père d'un collégien de 11 ans a été placé en garde à vue. Retour sur les faits avec notre correspondant dans la région, Jean-Luc Boujon.
Premier acte vendredi matin avec le fils, un collégien de 5e qui, durant la minute de silence en hommage à Samuel Paty, s'écrie « Allah Akbar » devant toute sa classe. L'incident choque profondément, son professeur le recadre, puis lui demande de réfléchir à ce qu'il vient de faire. Le garçon de 11 ans s'exécute et s'excuse auprès de l'enseignant et de ses camarades avant de recevoir un avertissement. Et c'est là que son père entre en scène, alors que la direction de l'établissement l'appelle pour le prévenir de l'incident. Le père se félicite de l'attitude de son fils et les choses ne s'arrêtent pas là, explique Pascal Clément, inspecteur d'académie de la Drôme.
Le père de l'élève a eu un comportement violent et agressif, d'abord au téléphone, et puis ensuite le lundi matin, en s'introduisant dans l'établissement de force et en menaçant les personnels qui étaient à l'accueil du collège. Il affiche très ostensiblement de ne pas partager les valeurs de notre République. Évidemment, les propos sont inacceptables, aussi bien en référence à Samuel Paty que vis-à-vis des personnels de l'établissement.
Le père, un agent de sécurité de 43 ans, a été placé en garde à vue. Une expertise psychiatrique est en cours. Lors d'une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé une Bible, 2 livres salafistes ainsi qu'un sabre. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
À Marseille, un homme a reconnu être l'auteur des lettres de menace à l'encontre d'un couple d'enseignants. Un différend lié aux travaux qu'aurait effectué cet artisan de 34 ans au domicile du couple serait à l'origine de son passage à l'acte. C'est ce qu'il a expliqué aux policiers au cours de sa garde à vue. Éviter l'explosion de colère sociale par tous les moyens. Le gouvernement rend les derniers arbitrages pour tenter de limiter la hausse des prix du carburant. Décision d'ici vendredi. Parmi les pistes à l'étude, une baisse temporaire de la fiscalité ou encore une sorte de taxe flottante qui remonterait automatiquement lorsque le carburant repasse sous un certain prix. Le problème de cette dernière mesure, c'est son coût pour les finances publiques. Une baisse d'un centime représente 1,5 milliard d'euros en moins dans les caisses de l'État. C'est ce qu'a rappelé lundi Bruno Le Maire, le ministre des Finances sur Europe 1. Le chèque carburant ou un boucliers tarifaires sont également toujours dans les tuyaux de l'Élysée. L'État qui continue d'encourager le verdissement du parc automobile, quitte à prolonger les primes pour l'achat d'un véhicule électrique, c'est en tout cas ce qu'affirme le journal Les Échos ce matin. Le bonus de 1000 euros pourrait être prolongé jusqu'au 1er juillet l'année prochaine. Une bonne nouvelle si cela devait se confirmer, explique Cécile Goubet, directrice générale de l'AVER, l'association qui défend la mobilité électrique.
On sait aujourd'hui que le différentiel de prix entre les véhicules thermiques et leur équivalent électrique reste en moyenne de 10 000 euros. Donc les dispositifs d'incitation à l'achat qui existent aujourd'hui permettent de gommer en fait partiellement ces écarts. Ça permet à la fois à l'écosystème de la mobilité électrique et aux usagers de la mobilité électrique d'avoir un petit peu plus de latitude par rapport à leur décision d'achat dans un contexte un petit peu tendu et lié en fait à la reprise économique et à la difficulté de pouvoir s'approvisionner en différents matériaux et composants pour les constructeurs, ce qui va permettre de leur donner un petit peu aussi d'oxygène de façon à pouvoir assurer les livraisons de véhicules, tout simplement.
Cécile Goubet, directrice générale de l'AVER, elle était l'invitée éco d'Emmanuel Duteil hier soir sur Europe 1. Un nouveau candidat dans la course à l'Élysée, François Asselineau, se présente pour la deuxième fois. Le président de l'Union populaire républicaine propose de quitter l'Europe, l'euro et l'OTAN.
Lui affirme ne pas nourrir d'ambition pour 2022. François Hollande publie un livre et règle ses comptes avec à peu près tout le monde.
Avec un viseur qui penche nettement à gauche, c'est sur sa propre famille politique que François Hollande se penche. Bonjour Alexis de La Fontaine.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1, l'ancien président n'est pas tendre avec son camp. Personne ne trouve grâce à ses yeux.
Oui, nous n'avons plus affaire au père rassembleur de la gauche, mais à une plume faite pour piquer. Ses mots les plus durs sont pour les candidats de son camp des lilliputiens, sous-entendu des insignifiants. Arnaud Montebourg est lui appelé le Zorro de la politique. Seulement deux mots sont utilisés pour parler de son programme pas sérieux et s'abstenir. Ses conseils pour Anne Hidalgo, parler à tous les Français et non à une partie d'entre eux. Il tire aussi sur son ancien ministre Emmanuel Macron, un homme sans conviction, errant comme un voyageur, sans boussole, sans cap. Son analyse est simple, il s'est accaparé tous les pouvoirs, négligeant les parlements et les élus pour rendre les riches plus riches. L'ancien président charge également Éric Zemmour, un polémiste, attiseur de haine, souhaitant réveiller les pulsions malsaines de l'occupation. Il prévient les Français, c'est simple, il est inoffensif, il n'a aucune chance de gagner, mais ses idées, elles, l'emportent.
Voilà sur le livre de François Hollande qui sort aujourd'hui, Affronté. On va peut-être passer au football, Dimitri.
Mais oui, mission accomplie pour le PSG hier soir en Ligue des Champions.
Et on ne retiendra pas la manière, franchement, mais plutôt le résultat. Après tout, c'est l'essentiel. Victoire 3-2 face au RB Leipzig et un duo Messi, Mbappé, décisif, Cédric Chasseur.
Oui, en l'absence de Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi, une grande partie du succès parisien face à Leipzig reposait sur les épaules de Kylian Mbappé et de Léo Messi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été à la hauteur, puisque les deux hommes sont impliqués directement sur les 3 buts du PSG. Heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs, car Paris a souffert. C'est presque une victoire inespérée au vu de la physionomie du match. Mais l'entraîneur Mauricio Pochettino s'en contentera.
C'est un match compliqué, mais on a la satisfaction d'avoir montré du caractère alors que nous étions menés 2-1. C'est dans ces matchs où il est difficile de trouver des solutions collectives que l'on peut compter sur des joueurs du talent de Messi ou Mbappé.
Comme souvent, cette saison, Paris s'en sort avec du caractère et grâce à ses individualités. La question désormais, c'est combien de temps cela peut durer. Le choc face à Marseille dimanche en Ligue 1 devrait nous donner une bonne indication.
Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Et puis toujours à propos de la Ligue des Champions, il y a encore un club français engagé ce soir. C'est Lille qui affrontera le FC Séville sur sa pelouse. Coup d'envoi à 21h.
Voilà, et puis autre résultat, victoire écrasante du Real, 5-0 sur le Shakhtar Donetsk. Liverpool a gagné, l'Inter, Porto et l'Ajax Amsterdam. Mes chouchous, j'ai toujours adoré l'Ajax.
Ah, le jeu néerlandais.
Ah ouais. Non, mais ça, c'était dans les années 90. Hein. C'était le grand Ajax. Vous vous souvenez, Christophe?
Bien sûr.
Merci.
Raikard, tout ça.
Voilà, c'est ça. Bon, on va pas relancer le débat, la conversation. Mais bon, venez tout à l'heure à 8h30, mon cher Christophe.